Vous êtes sur RTL.
8h40, c'est la revue de presse avec Amandine Bégaud. On va bien sûr revenir dans un instant sur les inondations d'hier et ce spectacle de désolation qui s'affiche ce matin à la une de tous vos journaux ou presque. Mais d'abord Amandine, une mise en garde.
Oui, attention aux médicaments antidouleurs. Au lendemain de la journée mondiale de lutte contre la douleur, c'était hier, Le Monde publie ce matin une série de chiffres qui font littéralement froid dans le dos. Les opiacés, ces médicaments qui contiennent des dérivés d'opium, sont aujourd'hui en France la première cause de mort par overdose. Oui, vous avez bien entendu, la première cause, plus de 500 décès chaque année. À titre de comparaison, c'est 6 fois plus que l'héroïne, presque 5 fois plus que la méthadone. Alors certes, on est encore bien loin de ce qui se passe aux États-Unis. Là-bas, les opiacés ont tué l'an dernier 72 000 personnes, plus que le sida, plus que les accidents de la route, plus aussi que les armes à feu. Mais la situation est également inquiétante en France. La consommation de ce type de médicaments a en effet explosé ces dernières années, plus 88% depuis 2004 pour ce qu'on appelle les opioïdes forts, plus 1950% même pour l'oxycodone. En fait, expliquent les médecins, tout le problème de ce type de traitement, certes efficace, c'est qu'on devient très vite dépendant. Le risque d'accoutumance est très important, Lucie. On a par exemple fait la triste expérience. Il y a 6 ans, cette trentenaire se fait opérer des yeux. Son médecin lui prescrit un antalgique codéiné. Tout de suite, raconte-t-elle, j'ai accroché, diminution de la douleur, mais aussi apaisement corporel, bien-être. À la fin du traitement, elle arrête, mais Lucie rechute quelques mois plus tard lors d'une crise de névralgie, cette fois impossible de s'arrêter. À chaque fois qu'elle essaie, elle est en manque, des bouffées de chaleur, des pics de tension. Ça fait 2 ans aujourd'hui, 2 ans qu'elle prend chaque jour la dose maximum autorisée, 2 ans. Et pourtant, cet ingénieur médical le sait, on ne devrait pas, en théorie en tout cas, dépasser 1 semaine de traitement. Le Monde, qui comme tous vos quotidiens revient bien sûr donc ce matin sur ces inondations dans l'Aude, partout, hein. Vous retrouverez ces visages sidérés face au chaos. Le chaos, justement, c'est le titre ce matin du Midi Libre, qui nous raconte notamment ces scènes d'horreur. Cette nuit, au monastère de Villard-d'Aunelle, on a été réveillé vers 3h du matin par un grand bruit, explique sœur évangélique, qui dort au premier étage. C'est sans doute d'ailleurs cela qui l'a sauvé, hein. Au rez-de-chaussée, la véranda avait explosé. Quand on est descendu, poursuit-elle, on avait de l'eau jusqu'aux épaules. C'était une folie, ça cognait, l'eau montait encore et encore. Quelques heures plus tard, sœur Elisabeth, qui elle dormait au rez-de-chaussée, sera retrouvée morte sous les cyprès à plusieurs dizaines de mètres de sa chambre. Le courant, raconte la responsable du couvent, a tout emporté, ouvert la porte du bâtiment, puis celle de la chambre, a emporté ses meubles qui ont fracassé la véranda, le frigidaire a même été retrouvé à plusieurs mètres de là, dans un bureau des sœurs qui, dès hier, se sont mises au travail pour nettoyer, tenter de remettre en état la chapelle. C'est la priorité, pouvoir organiser une cérémonie digne de ce nom pour Elisabeth. Alors comment est-ce encore possible, s'interroge ce matin l'humanité. Question qu'on se pose en effet en voyant notamment les photos de l'hôpital de Carcassonne hier, sous les eaux. Plus d'un mètre d'eau dans les couloirs, le passage entravé par des dizaines de véhicules. Ces clichés, vous pouvez notamment les voir ce matin sur le site du Huffington Post. Et pourtant cet hôpital est tout neuf. Il a été inauguré en 2014. Problème, il a été construit en zone inondable, une zone connue pour être inconstructible, tempe ce matin un radiologue de Carcassonne, le docteur Jean-Philippe Masson. Des inondations qui risquent de se multiplier à l'avenir. Le réchauffement climatique a en effet tendance à accentuer les précipitations intenses. C'est ce qui explique notamment un chercheur du CNRS dans Libération. Autre conséquence, et cela aussi c'est inquiétant, c'est ce qui se passe en montagne. Pas ou très peu de neige en ce moment. Là-bas aussi, il fait trop chaud. Résultat, les stations rivalisent d'ingéniosité pour ne pas faire une croix sur leur saison. À Sainte-Foy-Tarentaise, par exemple, tout près de Tignes, on a installé une usine à neige, oui, une usine. C'est ce que raconte ce matin le site Explicite. À La Clusaz, en Haute-Savoie, on est même allé jusqu'à casser de la glace du lac au marteau-piqueur. On l'a pilé ensuite, puis transporté sur une piste de ski pour assurer une étape de la Coupe du Monde de ski. 150 allers-retours en camion, imaginez le coût économique, mais bien sûr aussi écologique. Aujourd'hui, explique le site, ce sont 32 à 35% des pistes françaises qui sont enneigées artificiellement. C'est 246% de plus qu'il y a 14 ans, l'équivalent de la consommation électrique annuelle de 130 000 foyers de 4 personnes. Ce n'est pas rien. Problème, note la Fédération des associations de la protection de la nature. L'État est complice. Chaque canon à neige est en effet subventionné à hauteur de 30 à 50% par la région. Bref, l'histoire d'un coup de pouce qui, à l'arrivée, tue, un peu comme les opiacés finalement.
C'était la revue de presse d'Amandine Bégaud. Dans un instant, Laurent Gérard.